Chapitre 12. Ce qu'en disait le vieux Charlet, qui n'était point du tout satisfait de perdre son apprenti, mais s'y résignant néanmoins sur les représentations du docteur, ce qu'en pensait mademoiselle Augustine, qui en prit une névralgie et déclara qu'elle se retirerait du commerce aussitôt qu'elle aurait trouvé un acheteur pour son fonds, ce que firent tante Cornélie, Ferdine, Ernest, le docteur, mademoiselle Caton et tout le village, pendant la quinzaine qui précéda le départ de Siméon, remplirait le plus long chapitre qu'on ait jamais écrit. Et si je voulais narrer la séparation, les adieux, les conseils, les souhaits, les pleurs, je poserais au milieu d'un ruisseau de larmes le point final de mon histoire. Ne vaut-il pas mieux nous figurer Siméon grandi, changé, avec une ombre de moustache, mais des façons toujours un peu gauches, revenant l'année suivante au village pour y passer quelques semaines de vacances, et trouvant tante Cornélie rajeunie par la joie de le revoir, Ferdine toujours la même, avec ses longues tresses ébouriffées, sa bouche sérieuse et ses yeux riants, Ernest un peu moins, moi d'abord, et toute la commune sans dessus-dessous. On creusait, on bâtissait, on avait élevé un hall au fond de la combe des sources, car la source Feuille de Trèfle partageait maintenant sa gloire avec deux ou trois autres filets d'eau qu'on avait découverts en opérant des sondages dans les terrains adjacents. Le conseil communal était aux anges. Il n'était plus de borne à ses espérances. Le maître maçon s'intitulait désormais entrepreneur des travaux publics, il ne faisait plus de pierres funéraires. Toutes les boutiques s'étaient agrandies, un second boulanger s'était mis en mesure de répondre aux besoins nouveaux de la localité en fournissant chaque matin des petits pains chauds. Pendant la première saison d'eau, alors que l'installation était encore provisoire et fort incommode, l'auberge avait vu jusqu'à 60 personnes à sa table d'hôte et l'on n'aurait pas trouvé dans le village une seule chambre vacante. Tante Cornélie avait eu sa maison pleine de pensionnaires, ce qui lui avait permis d'abandonner ses broderies et de donner ainsi des vacances à ses pauvres yeux fatigués. « Pour tout cela, Siméon !» s'écria Ferdine. Ils étaient assis avec Ernest sur les marches du petit pavillon. « Pour tout cela, la commune t'élèvera un beau jour une statue. » « J'espère lui en fournir d'autres motifs, » répondit-il avec cet élan de jeunes espérances qui ne doute de rien. Il faut ajouter cependant qu'il rougit aussitôt de sa présomption et tourna la chose en plaisanterie. « On me représentera, » dit-il, tenant un caillou d'une main, de l'autre un escargot, comme si je m'apprêtais à battre le briquet avec ses ustensiles. « J'aurai un air profond, un nez auguste. Dommage que le mien soit carré pour le moment, » ajouta-t-il en portant la main à cet ornement de son visage. « Et l'on écrira ta biographie, » poursuivit Ferdine, dont l'imagination s'était mise aussitôt en campagne. On racontera l'enfance de ce grand géologue. À ta place, j'aimerais mieux devenir botaniste, né dans un petit village au milieu des montagnes, qui reçut ses premières leçons de sciences naturelles d'un modeste instituteur rural, et ses premières leçons de latin d'une jeune fille idéalement belle, admirablement instruite et accomplie, acheva Siméon d'un air fort sérieux. « Siméon, comment peux-tu ? » s'écria Ferdine, offensée. « C'est le style des biographies. Je me suis souvent demandé ce que peut bien être une beauté idéale. »« Une beauté idéale est une beauté blonde dans mon genre, » fit Ferdine en riant et en secouant ses longues nattes noires comme la nuit. « Mais sérieusement, Siméon, ne crois-tu pas qu'on mettra en effet un petit mot sur moi dans ta biographie ?» « Moi d'abord, » dit Ernest, « je ne tiens pas du tout à y être. On raconterait que je t'ai ennuyé pour avoir des cerfs-volants. » « Allons donc, » fit Siméon, qui étant un homme à présent pouvait juger des choses, « il n'y a pas de danger qu'on n'écrive jamais notre histoire. »